Bienvenue dans la jungle des affaires, une émission mettant en lumière les humains derrière les entrepreneurs et les gestionnaires d'entreprises. Votre animateur est Jean Gauthier et ses invités vous offrent une vision unique sur les défis et les sacrifices liés à la poursuite du succès dans une entreprise. Alors préparez-vous à découvrir les humains en plein cœur de la jungle des affaires.
Salut la gang, encore une fois aujourd'hui dans la jungle des affaires. On va parler d'affaires, on va parler de toutes sortes d'affaires. On va parler de finances, c'est bien sûr. Aujourd'hui, on a un invité qui est particulièrement en finance. Alors, ça, c'est sûr que ça risque de parler de chiffres. Les gens qui aiment les chiffres, ça va être le temps aujourd'hui. Dans la jungle des affaires, il y a aussi des êtres humains là-dedans. Ben oui, qu'est-ce que tu veux? Ça donne que les entreprises sont gérées par des humains. Fait que c'est bien sûr que nous autres, les animateurs, quand on reçoit des gens comme ça, ben on aime ça découvrir, hein? On aime ça poser plein de questions.
Oui.
Puis aujourd'hui, j'ai une co-animatrice.
Ben oui,
Marie-Pierre, qui est avec nous autres du Trait d'Union.
Oui.
Marie-Pierre, d'entrée de jeu, je te remercie beaucoup d'être là. Ça
fait plaisir.
Je sais que pendant que tu n'es pas là, il y a d'autres mondes.
Pas que tu es... Je n'ai pas laissé les jeunes seuls.
Les jeunes ne sont pas tout seuls. Parle-nous de ça, Trait d'Union, là, d'entrée de jeu, vite, une petite minute avant qu'on accueille notre invité.
Oui, mais en Trait d'Union, on a pour mission la prévention du décrochage scolaire pour les 12 à 30 ans. On a un service de jour là, qui est pour les élèves qui sont suspendus ou expulsés ou encore qui fréquentent des centres aux adultes. Ils sont tous suivis individuellement aussi. Et de soir, des 12-17 qui fréquentent leur établissement scolaire là, qui viennent deux soirs semaine.
Quelle belle cause! Puis on le sait hein, que le décrochage, malheureusement, c'est quelque chose de plus en plus populaire. On dit ça de même. C'est plate à dire, mais c'est ça pareil. Marie-Pierre, ça fait longtemps que t'es là?
20 ans.
Hey! T'as commencé jeune? T'as commencé à 10 ans?
Ah, non.
Ben oui, moi je le sais, t'as commencé jeune. Aujourd'hui, on se fait plaisir. Ben, je ne sais pas si je me fais plaisir. J'étais supposé avoir mon chum de longue date, Joe, qui était là. Tu étais supposé être là, mais là, j'ai. Comment ils appellent ça? Comme à la lutte, hein? Ils se donnent la main puis ils changent de lutteur. On est en compagnie de Yves Turcotte, de Roy Métivier Roberge Syndic. Salut Yves.
Bonjour.
Ça va bien?
Super bien.
D'abord, merci d'avoir pris le temps l'après-midi de venir t'asseoir avec nous autres en studio.
Ça me fait plaisir.
On est bien?
Oui, absolument.
T'as déjà ta photo est prise, tout est correct.
Tout est beau.
Tu te sens-tu comme une star, là?
Non.
Pas encore, hein? Il dit non, pas encore. Yves, écoute, ça fait longtemps que t'es dans le domaine. Je voyais ton background puis tout ça. Mais avant de parler de finances, puis de syndic, puis de tout ça, les services aussi que vous pouvez rendre aux gens en général, je veux parler aussi du gars. Le gars qui vient de lâcher les piouis là, du carnaval, tu t'impliques beaucoup là-dedans. Ça m'a impressionné quand j'ai lu ça, c'est le fun.
C'était vraiment un bel événement. J'adore ça toutes les années. C'est notre 15e année cette année qu'on recevait des jeunes chez nous.
Là, vous êtes comme une famille, tu me corriges, d'hébergement. Vous hébergez, dans le fond, les petits piouis de l'extérieur plutôt qu'ils soient logés dans des hôtels.
C'est ça. Donc, cette année, je crois qu'il y avait 32 équipes qui recevaient, qui devaient s'héberger à travers les familles. Nous, dans notre équipe, on est 9 familles qui hébergent entre 2 et 3 enfants, parce que dans notre équipe, on était 19. En fait, il y avait 19 piouis, donc nous, on en avait 3.
Puis vous aviez les Flyers, tu me disais tantôt.
Exactement. Les Flyers de Philadelphie. Pour la deuxième année, Flyers de Philadelphie dans le 3.
3A, c'est un beau calibre. Dis-moi, t'as dit beau jeu, là. C'est du beau hockey.
Ça joue du beau hockey. C'est vraiment intéressant de regarder.
Oui, vraiment. Puis là, ça va repasser pour les gens qui disent « Hey, je suis pas allé au Pee-Wee cette année. » Tu sais, hein, on n'a pas tout le temps d'y aller. Moi, je m'oblige d'aller au moins une journée, un avant-midi tranquille. Puis je regarde même pas quelle équipe. J'arrive là, puis il y a du 2C, il y a du 2A, je ne sais pas, puis je m'amuse, j'aime ça. Je me prends un bon roteux.
C'est exactement comme ça que j'ai commencé à m'éduquer. Je suis allé moi aussi depuis l'école, depuis ma tendre enfance.
Ben oui.
On avait des événements, une journée au Pee-Wee, c'était toujours à chaque année. J'ai continué à y aller à chaque année. À un moment donné, j'ai rencontré quelqu'un, une connaissance, qui lui était famille justement d'accueil. Puis il m'expliquait son expérience. Puis j'ai levé la main, j'ai dit, écoute, l'année prochaine, si vous cherchez des gens, ça m'intéresse.
Puis ils doivent en chercher à chaque année.
C'est certain, là, il y a toujours une ou deux familles qui doivent être remplacées. Donc, il y a des ouvertures comme ça. Donc,
T'as-tu des amis qui ont reçu les petits Ukrainiens?
Non, je n'ai pas de connaissances qui ont
Parce qu'ils ont bien reçu. Performé, je pense. Hein? Ils se sont rendus jusqu'en demi.
Ils ont fait à peu près la moitié du chemin. Là. Il restait la dernière fin de semaine, le samedi et le dimanche.
Oui, c'est ça. Un peu comme tes Flyers.
Exactement.
Excellent. Ben là, on parle de hockey, là, Marie-Pierre. Là. C'est pas grave. Là. On va revenir tantôt avec l'être humain. Là. Mais là, il fallait qu'on rentre dedans.
C'est correct.
On rentre là-dedans parce qu'on parlait. Est-ce que tu avais été patron au Camado, toi, quand tu étais jeune?
Non, moi, je suis pas. Pas de la ville.
OK, t'étais pas de Québec.
Non.
OK. T'étais de où?
Je suis originaire de Lotbinière. Mon père avait une ferme laitière et tout simplement en campagne. Hein.
Qu'est-ce qui fait qu'un gars de ferme laitière s'en va dans les finances? Et il se passe quoi, là? Il veut pas être fermier, il s'en va à l'école. Son père, il dit, hey, wow, minute, là.
Ça prend la courte version ou la longue version?
Hein? Ouais, bien, attends un peu. Là, on a 60 minutes. Mettons qu'on va prendre une version moyenne.
Disons que j'avais pas la fibre pour travailler sur la ferme. J'adorais ce que je faisais.
Toi, t'aimais la shape?
Ouais, c'est ça.
C'est bon.
J'avais pas la fibre et j'avais pas l'appel. Honnêtement, là, je savais que je fallait que j'étudie, ça me prenait des études. Puis instinctivement, ben, de fil en aiguille, je me suis ramassé à l'université, en administration. Puis bon, les expériences de travail m'ont amené à l'emploi que j'ai présentement. Mais c'est
ouais,
pas.
Parce que ça fait longtemps, là, t'es
j'avais
là.
jamais dans ma vie pensé faire un syndic de faillite. Là.
Non.
Donc, non, c'est plus à travers les expériences de travail là, que j'ai découvert la profession.
C'est en rencontrant différents clients qui avaient ces problématiques-là.
En fait, j'étais de l'autre côté à un moment donné. J'ai travaillé pour une pétrolière au niveau du crédit.
Ah, c'est ça, c'est Irving.
Oui, Petrol Irving. À ce moment-là, c'est mon premier emploi après mon bac en 90.
Il y a eu la CIBC aussi.
Par la suite, une demande bancaire. Mais chez Irving, ça m'a permis justement d'être à travers les créanciers. Là, on avait un client qui avait fait faillite à ce moment-là, puis ça m'a initié aux demandes. Donc, je trouvais ça intéressant. Là. Donc, l'expérience de travail m'a amené à faire ce que je fais aujourd'hui.
Comme le criminologue qui arrive sur les scènes d'un crime, tu sais. C'est ça que je veux faire.
Ben, c'est pas quelque chose que, bon, même à l'université, t'expliques ça à un étudiant, mon Dieu, je connais pas ça, c'est quoi, ça s'enseigne pas, c'est des cours particuliers comme l'ordre des comptables, on a notre ordre également, donc de fil en aiguille, bon, faut que tu te ramasses devant cette porte-là, là, sinon c'est pas quelque chose que tu vas penser faire dans ta vie. Là.
Il y a un ordre, hein, c'est... Ben, tu sais, on dit des gens qui ont fait des faillites dans le passé, peut-être plus tôt dans l'histoire. Mais maintenant, c'est très sévère, très régi, très.
Ouais,
décides pas que tu fais faillite demain matin pour le fun, là.
Bon, il y a la loi sur la faillite, là. Il y a différents aspects de la loi, là. Bon, mais c'est ça. Fait que c'est ça.
Mais vous, ce que vous essayez de faire, c'est avant que les gens en arrivent à la faillite, vous proposez les moyens qu'il faut.
Bien, il y a des alternatives. Les gens viennent nous rencontrer pour discuter de leurs ennuis, mais la plupart du temps, c'est qu'ils sont déjà devant le fait accompli que les finances, ça ne fonctionne pas.
Oui.
Il faut trouver une solution à ça. C'est quelque chose qui se vit mal, en fait. Les gens souvent nous disent « j'ai de la misère à dormir
». Ah oui,
ça fait plusieurs jours que je ne dors pas, j'ai pas de solution. Là, évidemment, les gens ne parlent pas autour d'eux. La plupart du temps, ils gardent ça pour eux.
Oui, ça, c'est... Hein,
c'est pas quelque chose que tu vas te vanter. Là,
puis dans le fond, vous, comment vous faites pour réchapper un peu ça avec le client qui arrive puis qui dit « moi, je suis rendu endetté un peu partout, je ne sais plus, je veux me sortir la tête de l'eau ».
En fait, on établit la situation, on regarde un peu les dettes, la nature des dettes, qui sont les créanciers. On fait un budget surtout, c'est ça qui est important de savoir, qui va nous diriger un peu sur une piste de solution.
Oui, bien, s'ils rentrent zéro, là, à un moment donné,
c'est exactement ça. Dans le fond, si les revenus ne sont pas là, ben je peux pas bâtir, on peut pas bâtir quelque chose, même du côté d'une faillite ou du côté d'une proposition, c'est assez difficile de bâtir de trouver une solution si on n'a pas réglé le problème des revenus, qu'on va dire comme ça. Là.
Moi, ce que j'ai aimé dans le courriel qu'on a reçu là, de l'équipe chez RMR, l'approche humaine, je trouvais ça le fun parce que, tu sais, on parle à un moment donné de se démarquer parce que quand même, des cabinets de syndic, il y en a un peu un autre. Mm-hmm. Il y en a même qui ont commencé chez vous, on ne les nommera pas, mais ils ont commencé chez vous et sont rendus ailleurs. Mais ça reste que il y a un côté humain, parce que c'est des êtres humains avant tout qui font qui ont des problèmes financiers.
C'est exactement ça.
Mais toi, Yves, là, qu'est-ce que tu leur dis? Y a-tu des signes avant-coureurs? Tu sais, mettons, la personne... C'est pas vrai que tu te lèves un matin et tu dis « J'ai mal partout, j'ai le cancer. Mm-hmm. » Tu veux dire, à un moment donné, t'as des douleurs, t'as mal au dos, t'as mal à la tête, t'as mal à la cheville, t'as mal à quelque part. Je vois ça de même un peu. Dans la finance, il doit y avoir des signes à un moment donné qui tu sais, des lumières, là, je sais pas. On n'est pas tous des baccalauréats en finance, mais ça reste...
Oui, les signes sont connus, là, c'est juste que vous ne les voyez pas. Mm. Si quelqu'un prend une carte de crédit pour en payer une autre, ben, mm-hmm. c'est déjà
ouais,
un problème.
Ça commence mal, ça.
C'est ça. Mm-hmm. Fait que, on en a des clients.
Tu vois là, ça souvent, oui, c'est ça.
À un moment donné, c'est un tourbillon, puis ça monte, ça finit pas de monter.
Parce qu'il y en a une, mettons, qui est remplie au bouchon, fait que... Mm. Il sert de l'autre. OK, oui.
Ça, c'est un premier signe avant-coureur.
Il y en a qui en ont deux, puis trois, puis quatre, puis cinq cartes de crédit.
Oui,
là,
c'est ça.
Là.
Le problème, il arrive, c'est justement... C'est que,
la facilité au crédit, peut-être.
Oui, absolument. Mm-hmm. Puis maintenant, il y a un autre aspect qui vient de sortir, c'est les micro-prêts.
Okay.
Ils sont hyper faciles à obtenir.
En ligne?
En ligne.
Comme des prêts accordés un peu.
C'est automatique, vous l'avez, c'est parti. Ouais.
Fait que, puis là, c'est quasiment pré-approuvé, là, tu sais.
C'est copié-collé, là. Les gens, souvent, ils arrivent, viennent nous voir, ils en ont 2, 3, 4, 5. Puis c'est des 500, des 800, des 1000 qui se transforment en 1500, en 1700, 1800 piastres. En claquant les doigts.
Puis
là,
le taux d'intérêt doit être un peu...
Ouais.
C'est abominable.
Ça a monté, en plus, les taux d'intérêt,
absolument.
Actuellement.
Oui. Ouais, là, ben c'est ça. C'était, mm-hmm. c'était un de mes points. Je l'avais ici, les hypothèques.
Ouais.
Parce que, tu sais, on dit, il y a un écart présentement, tu pourras valider, Yves, c'est qu'il y a un écart entre les pauvres et les riches de plus en plus. Mm-hmm. C'est-à-dire que la classe moyenne, on dirait qu'elle est en train de disparaître. Mm-hmm. Fait que là, à un moment donné, ben si tout coûte cher, tu sais, les gens, à un moment donné, le taux hypothécaire, un gars qui a une maison d'un million, je dis un gars, une fille, qui a une maison de 2 millions, mettons.
Mm-hmm.
Il l'a payé. Mais il y a 1 million d'hypothèques, puis 1 million que, bon, il l'a payé.
Mm-hmm.
Bon. Mais sa maison vaut 2 millions, mais il y a 1 million à payer à tous les mois, là. Je veux dire...
On n'est pas obligé d'aller jusqu'à 1 million.
Non, mais...
On en a plusieurs maintenant.
T'as des gens riches, c'est ce que je veux dire. Mon point, Yves, t'as raison, mais...
C'est qu'on a une clientèle qu'on ne voyait pas avant.
Ouais.
C'est-à-dire que les deux travaillent, les revenus.
Ouais.
À un moment donné, bien là, tu vois que l'espace sur le budget, juste pour payer les frais de subsistance, il est de moins en moins grand.
Mm-hmm. Parce que même, c'est ça, avec des salaires plus moyens, là, vers, le, en mettons, on va dire entre 80 et 120 000, ben les deux, là, chacun, là, je veux dire, c'est ça, on arrive plus juste au bout du compte en ayant tout payé avec la vie d'aujourd'hui, puis le coût de la vie qui augmente partout. Autant à l'épicerie que dans nos factures, dans notre hypothèque, là, finalement.
C'est la garderie, c'est niaiseux, là. Mais on parlait de garderie, là. Imagine-toi une famille normale qui a deux enfants, entre 10 et 15 ans, là.
Mm-hmm.
Moi, je le sais, j'en ai eu. J'ai eu trois enfants pendant une semaine. J'ai fait l'épicerie pour nous cinq. Écoute, c'est épouvantable.
Oui.
J'ai fait le même constat.
Tu t'es placé dans la situation d'une famille, imagine.
Dis, ça coûte cher. Écoute, on les a eu pour une semaine. Imagine-toi quand tu les as à l'année. Là.
Puis dans ce temps-là, c'est, je fais une petite parenthèse, mais dans l'hébergement des pays, oui, c'est vous qui payez les frais?
Absolument.
Pour eux?
C'est volontaire. On reçoit aucune allocation pour ça.
Ah, wow.
C'est vraiment
je me l'étais demandé, justement.
Ouais.
Puis trois ados, là, que tu mets à l'épicerie, là, on va dire, une affaire. Hein? Moi, c'est pas pire, j'en ai une rendue autonome à 27, Kéliane, mais Rosie est encore à la maison. Quand son chum, il vient, bien... Non, mais c'est ça. Puis même chose pour les beaux-parents, tu sais, quand les autres, ils vont chez les parents à mon genre. Mais quand on parle de signes avant-coureurs, parce que, tu sais, je me dis, tu sais, des fois, tu vois quelqu'un, puis j'en reviens souvent avec la santé, puis je fais un parallèle avec ça. Problème de santé, tu sais, ça arrive pas, bang, à moins d'un accident, là, à moins d'un AVC, quand je peux vous en parler.
Mm-hmm.
Mais ça reste que, normalement, tu le vois un petit peu. Tu dis, ben là, je devrais arrêter de dépenser un petit peu, jouer. Peut-être il y a des gens qui jouent en ligne ou tu sais, il y a un paquet de... Mm-hmm. Puis, tu sais, on n'est pas là pour juger les gens, là, mais ça reste qu'il y a des signes avant-coureurs qui fait qu'à un moment donné... Puis là, tantôt, tu nous as dit, bon, la personne qui paye ses cartes avec ses cartes. J'aime ça, le...
Oui, c'est concret. Avec ses cartes,
tu sautes un paiement, deux paiements. Uh-huh. On joue entre ses cartes pour sauter des paiements.
Oui.
Ça, c'est une autre chose.
Oui. Oui, c'est ça.
Il y en a-tu plusieurs autres que vous voyez plus fréquemment?
Qu'est-ce que vous voulez
dire?
Les
autres signes, dans le fond, avant-coureur, là, comme l'on dit, bon, repayer ses cartes avec ses cartes.
Les appels des créanciers ou encore des agences de recouvrement, mm-hmm. ça, c'est des... Je vous dirais, là, à ce stade-là, hein? Justement, les gens, ils pensent à venir de consulter parce qu'ils sont vraiment tannés de se faire déranger, ils trouvent ça lourd. Et puis agences de recouvrement, c'est deux fois par jour, une fois par jour. Puis des fois, c'est même au travail, là.
Oh, ils sont tenaces.
C'est tenace. On va dire sont tenaces.
Oui, c'est ça. Ils ne lâchent pas. Puis je voyais justement dans le profil aussi que votre différence, c'est vraiment par rapport à votre approche humaine. Donc, vous, tu sais, quelqu'un qui arrive un peu plus en détresse psychologique, là, à ce moment-là, tu sais, quand on est rempli de dettes, bien, c'est là que les problèmes de sommeil arrivent, qu'on se sent stressé, toutes sortes d'autres problèmes physiques qui arrivent. Mais vous, comment que vous jonglez avec ça, avec le client pour être en mesure de l'apaiser puis d'être...
En fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on...
Vous jouez au psychologue?
Oui, effectivement. Ouais, dans le fond, j'ai mon chapeau de syndic, mais j'ai mon chapeau de plusieurs métiers à côté. Là.
Ben oui, tout à fait.
Psychologue, c'en est un. Mm-hmm. Puis il faut quand même être un bon vendeur. Il faut quand même t'expliquer bien tes affaires.
Ben oui,
d'autres personnes
oui.
comprennent. Puis il faut que tu te places aussi au niveau de la personne qui est en avant de toi. Mm-hmm. Parce que bon, il y en a, ben, tu peux avoir un comptable. Tu peux avoir la personne qui n'a aucune notion, qui a fini son secondaire 3. Puis, ben, tu sais, il faut que tu les traites les deux de la même façon.
Tout à fait.
Puis nous, ce qui est bien, c'est que... Ce que j'adore dans mon métier, c'est de trouver une solution pour la personne et de lui faire comprendre mm-hmm. qu'il y en a une solution. Mm-hmm. Puis la récompense qu'on a de ça, c'est que ça arrive très souvent que la personne qu'on en avait de nous, elle dit ben, « Tu viens de m'enlever 100 livres sur les épaules, puis je pensais pas que c'était aussi facile que ça. » Même si les autres ne voient pas de solution, puis moi, je suis capable, en fait, on est capable de leur en apporter une.
Ça m'allume sur une affaire. Quand on dit, bon, côté humain, tout ça, c'est bien sûr, mais il y a des solutions. Moi, j'aime ça, Yves, quand tu apportes le dos. Parce que les gens pensent syndic égale faillite.
Mm-hmm.
Alors, moi, je suis rendu au bout du rouleau. J'ai plus assez de revenus pour faire face à mes dépenses que je peux pas couper ou peu importe. Mettons, on va dire quelqu'un dans moyenne là, qui était assez lucide pour dire faut que je fasse des moves. Il est trop tard, ça marche plus. Il arrive chez vous, il ne faut pas qu'il pense juste que ça va être une faillite. Parce que, puis on l'entend dans vos annonces, puis moi j'aime ça, je sais que vous faites beaucoup d'annonces.
C'est notre lot quotidien. Ce matin, je parlais justement avec une cliente qui était désespérée, elle n'avait aucune façon de s'en sortir. Je lui ai donné deux, trois conseils, ça ne coûte rien. Là.
Ben non.
Donc, puis sans, on n'a pas parlé de faillite, on n'a pas parlé de proposition, on n'a rien parlé de ça. J'ai dit, vérifie ça, vérifie si tu as des cautionnements, as-tu pensé à telle affaire. Mais avec ça, là, j'ai donné quelques outils pour essayer de tenter quelque chose avant d'en arriver à penser peut-être à revenir me voir.
Puis comment ça fonctionne? Je sais qu'on entend des fois dans vos annonces, je sais que José a parlé l'autre fois avec notre ami Dupont. Il a bien fait ça en passant. Il y a aussi des façons d'arriver, mettons, avec un... Tu sais, vous dites des fois, on peut sauver 1 000 $ par mois. Un exemple, tu sais, on prend un exemple type. Pour le commun des auditeurs, pour le bien des auditeurs, explique-nous comment est-ce que quelqu'un peut sauver 1 000 $ par mois. Allez vous voir.
Bon, ben, un exemple. Encore une fois, on travaille avec le budget. On regarde au niveau des revenus qui rentrent au niveau familial. Après ça, on fait une analyse des dépenses. Bon, les dépenses d'habitation, d'alimentation, transport, frais de scolarité, etc.
Les frais de la vie. Là.
C'est ça. On ne tient pas compte des dépenses que les gens ont en carte de crédit, en paiement d'impôts, tout ça. Puis ultimement, bon, on voit qu'il y a un montant qui est disponible mensuellement. Puis avec ça, on peut bâtir une proposition, faire une offre. Donc, en regardant le montant
une proposition.
Disponible. Exactement. Mm. Donc, les revenus moins les dépenses de subsistance, il reste un montant X. Mm. Ce montant X-là, multiplié par, exemple, 60 mois, bien, il va faire en sorte que si c'est 300 par mois, ça fait 60 mois à 300 $, ça fait 18 000. Si la personne a 30 000 piastres de dette...
Elle vient de sauver 12 000.
Elle vient de sauver 12 000 piastres. Puis ça, c'est un exemple où est-ce que, bon, il y a d'autres montants...
Parce que là, le 300 par mois qu'elle va payer, tu me corriges, Yves, mais elle payait bien plus cher que ça.
Exactement. Donc, les cartes de crédit, ça pouvait lui faire des paiements de 600, 800 piastres par mois. Là, les nouvelles modalités par rapport au remboursement des cartes de crédit, bon, d'une année à l'autre,
on parle pas de
montants. On ne parle pas de faillite. C'est une offre de règlement dans le cadre d'une proposition de consommateur. Donc, c'est accessible.
Puis dans ce temps-là, est-ce que c'est le client? Moi, je pose des questions aussi, surtout pour qu'on s'éclaire tout le monde. Est-ce que c'est qui vous paye? Comment ça marche, là?
Dans le contexte d'une proposition de consommateur, les honoraires du syndic sont payés à même les versements qui sont faits.
OK.
Donc, sur le 18 000, le syndic va collecter un pourcentage là, qui est prévu par la loi. Donc, dans les publicités que vous entendez des syndics, on entend souvent « Ah, les honoraires du syndic sont prescrits par la loi ». Bien, c'est exactement ça. C'est que la loi de la faillite prévoit que le syndic va se payer à même les prélèvements qui sont faits dans le cadre. Donc, la personne n'a pas à nous payer en supplément. Donc, tout est prévu dans le budget. Puis nous, ce qu'on regarde, c'est est-ce que 300 $ ça cadre? Il y a pour certaines personnes, ça va être 175. Il y en a d'autres, ça va être 600. Il y en a d'autres, ça va être 1000.
Ben oui.
Ça dépend de...
Ça dépend de l'ampleur de la dette.
De l'ampleur de toutes les cartes de crédit, des impôts et tout ça. Là, qui ont,
parce que tu peux pas non plus faire ça sur 200 mois. Là,
non, dans une proposition de consommateur, le maximum qui est prévu au niveau d'amortissement, c'est 60 mois.
Ah,
5 ans.
Quand même. Fait que c'est selon ce qu'elle est capable de donner, mais au moins, ça l'évite à la personne de payer des intérêts partout.
C'est ça. On s'assoit sur un budget, puis c'est avec ce budget-là qu'on
d'avoir 16 paiements, tu sais.
Ouais, c'est ça. Il y en a que c'est ça.
Ben oui, il y en a que c'est ça. Il y en a qui oublient le 12. Il y a un paiement le 12, le 14, le 19, puis le 24, puis tu sais, hein?
Donc, c'est ça. C'est des prélèvements qui se prennent à tous les mois. On fixe une date avec... notre client pour déterminer qu'est-ce que... Bon, souvent, ça va être le 20 parce que les allocations familiales rentrent le 20. Les gens savent que exactement le 20, l'argent va être dans le compte. Il n'y a pas de problème.
C'est un bon détail.
Oui.
Il y a aussi...
Ça c'est l'expérience.
Oui, c'est ça. L'entreprise RMR est là depuis quand? Comment ça se passe? Là? C'est rendu une grosse bébête?
Oui, ça fait plusieurs années. En fait, moi, je suis rentré chez RMR en 98. Donc, ça va faire 25 ans cette année.
J'étais-tu né, moi, comment dire? Moi, je m'en vais.
Donc, ça fait quand même... ça va vite.
Hey, 25 ans?
RMR existait déjà à ce moment-là. Oui. Il y avait d'autres... j'étais avec... Il y avait d'autres associés à ce moment-là. Donc, nous, présentement, on est trois. Il y a José Robert, François Cochon et moi-même.
Puis c'est beau d'être toujours aussi passionné après 25 ans aussi.
Oui, mais c'est ça. Il faut garder le feu sacré.
Mais vous avez du fun de temps en temps à travers tout ça. Là.
On a vraiment une belle gang.
Oui, c'est ça.
C'est un plaisir de rentrer au bureau tous les matins. Il n'y a pas une fois que je rentre au bureau de reculons.
Oui, parce que je sais que José, ben, on est des bons chums. Puis il me disait justement, il aimait l'équipe.
Oui, absolument. Puis j'aime mes collègues, j'aime mes associés aussi.
Y a-tu des gens qu'on peut saluer? Ben, il y en a trop.
Il y en a trop.
On a peur de l'oublier.
Il y en a trop.
Parce que là, toi, vous avez plusieurs bureaux. Toi, tu es en charge de quelques-uns, je pense.
En fait, moi, je m'occupe plus d'un département. Initialement, j'avais un secteur qui m'était attitré. Maintenant, je m'occupe plus de collègues, on appelle ça des administrateurs, qui, eux, vont rencontrer les clients. Puis moi, on est un peu comme chez le dentiste, là, souvent.
Ouais. T'as l'hygiéniste dentaire, t'as le dentiste,
exactement.
T'as l'autre qui fait les couronnes.
Donc, outre mes... j'en rencontre des clients quand même, mais j'ai beaucoup de personnes qui font qui sont autour de moi, là, qui vont rencontrer, qui vont se taper, là, je te dirais, le gros du travail, là, les rencontres préliminaires, préparer les questionnaires, faire justement le bilan des actifs, les dettes, le budget, tout ça.
Parce qu'ils sont partout, là, en Beauce.
C'est ça, on a une quinzaine de bureaux à travers le Québec.
Quand même.
Oui, puis c'est ça, ça grossit tout le temps.
Malheureusement. Vous autres, c'est heureusement pour vous, mais c'est malheureux de voir que l'économie a... Comme là, cette année, vous allez...
Année, ça va être une grosse année.
Je peux-tu t'envoyer mon CV? Je suis certain que je pourrais travailler chez... Non, mais cette année, vous allez avoir besoin d'aide.
On a perdu du personnel dans le cadre de la COVID.
Ah oui?
Il y a des gens, là, bon, on a été, comme tout le monde, on a restreint nos opérations. Là,
vous aviez des bureaux,
on a géré ça comme...
Des bureaux vides, là, ça ne doit pas être
exactement, effectivement. Donc, on a procédé à des mises à pied temporaires. Mm-hmm. Puis les gens, bon, finalement, eux ont décidé par eux-mêmes, pour quelques-uns, de changer de domaine tout simplement. Parce que, bon, la reprise, on n'était pas trop... personne qui connaît la vérité, qui savait exactement quand est-ce que ça allait recommencer.
Ouais, c'est vrai.
Donc, on a ceux qui sont restés, ben c'est nos chevaux de bataille, nos chevaux de bataille. Donc,
Un syndic qui a ce métier-là, qui fait partie de l'ordre des syndics, qui décide du jour au lendemain de changer, de se réorienter, il s'en va pas dans la construction.
Effectivement, mais il y a des domaines qui sont connexes. Ouais. Les banques ont leur service d'insolvabilité la plupart du temps. Ben, c'est des. En fait, lorsqu'il y a de la liquidation d'actifs à faire, ce genre de choses-là. Là. Donc, mais c'est pas. Honnêtement, les syndics qui s'en vont ailleurs, là, c'est pas. Ça court pas les rues. Habituellement, la personne qui commence comme syndic de faillite va finir comme syndic de faillite.
Ça doit être pour changer pour quelque chose de très similaire, sinon, là, tu sais, c'est ça.
C'est ça, parce que bon, il y a toujours il y a l'aspect de rencontre avec les gens puis de restructuration. Puis si tu t'en vas travailler pour une banque, bien là, tu te coupes de cet aspect-là puis tu fais juste de l'administration vraiment. Oui,
le côté humain.
Exactement,
là,
okay. ça, le côté humain n'est pas là.
Ouais.
Puis en plus, là, tu es rendu de l'autre côté, c'est-à-dire que là, tu es en mode liquidation, bien, c'est pas la même dynamique que tu n'es plus en mode solution.
Les autres, vous êtes un peu comme le pare-feu. Hein? Tu me corriges, là, mais entre l'humain qui rentre dans ton bureau puis les créanciers. Là,
c'est ça. Dans le fond, on fait l'analyse de la situation puis on explique aux créanciers que, bon, voici la situation.
Vous allez tout perdre.
Vous avez le choix.
Oui, c'est ça.
Est-ce que vous voulez perdre tout perdre, comme vous dites?
Ou 100% ou peut-être récupérer...
On s'entend pour... faire un bout de chemin, puis la compagnie, selon ce qu'on a regardé au niveau de la liquidité, est capable de générer tant de fonds, tant de profits, tant de revenus. Avec ça, on est capable de bâtir une proposition. Fait que vous prenez un pourcentage dans votre perte, puis on passe à d'autres choses. Sinon, ça va être la faillite puis la liquidation de la compagnie.
Moi, ce que j'aime aussi, c'est l'aspect de vulgariser avec les clients parce que, tu sais, on n'est pas tous passionnés par l'administration comme votre équipe de travail. Donc, c'est ça. Hein? Quand ces gens-là se font appeler par les créanciers, c'est peut-être un langage inconnu le fait que quelqu'un nous le vulgarise, bien, on comprend déjà mieux l'état de la situation, là.
Absolument. Effectivement, c'est vraiment ça. C'est comme... ça me fait rire parce que c'est la même chose quand j'essaie de parler en anglais avec un interlocuteur. Et c'est toujours la même lexique qui revient. C'est toujours la même chose. C'est toujours les mêmes mots. C'est juste que... c'est des mots qui sont pas dans le langage courant. Là.
Non, oui,
c'est
ça. Exactement.
C'est pas dit à tout le monde. Puis... on vous entend beaucoup, hein, puis pas juste Roy Métivier-Roberge, on entend aussi beaucoup d'autres syndics. Est-ce qu'on s'inquiète d'entendre ça? Tu sais, de plus en plus de pubs?
Bien, écoutez, c'est sûr que là, les syndics, présentement, bon, on voit ce qui arrive.
Vous êtes populaire, en tout cas.
Il y a une augmentation de volume.
Malheureusement.
Si on compare avec les deux dernières années au niveau de la COVID, où est-ce que le commercial était presque en néant.
Mm-hmm.
Présentement, c'est l'état compte, présentement. Là. Et ce qui arrive, c'est qu'il y a énormément de...
Les entrepreneurs aussi vont voir.
C'est ça. Il y a un niveau commercial, au niveau de particulier également. Il y a une augmentation de volume. Donc, tout le monde essaie de tirer son épingle du jeu.
Vous autres, vous faites les deux?
On fait les deux, absolument. Puis on fait les deux, soit faillite commerciale, proposition concordataire au niveau de la compagnie, même particulier, c'est la même chose, là, faillite et proposition.
Parce que là, on parle tantôt du travailleur, ou, tu sais, de la classe moyenne, peu importe, mais il y a les entreprises aussi. Là, hey, c'est pas drôle, les entreprises, là, quand tu cautionnes personnellement ton local. Dis-moi donc, sans rentrer dans les détails, parce que c'est pas le but, là. On n'est pas dans un podcast dans la jungle du redressement. Peut-être un jour, on le sait pas. Mais il y a des choses, exemple l'impôt. Bon, tu sais, les gens qui ont des bills de taxes ou des bills d'impôt, ces choses-là, est-ce qu'ils peuvent s'en sortir ou ça, c'était attaché pour la vie?
Absolument, il y a des solutions à ça. Donc, encore une fois, au niveau de l'impôt, c'est une dette de carte de crédit, c'est la même chose. Donc, on peut faire des ententes avec le gouvernement et tous les créanciers comme si c'était une autre dette.
Parce que, tu sais, il y a des mythes là-dessus, des fois, qu'on pense. On dit, ben là, si je dois de l'argent au gouvernement, ou si je dois de l'argent à une banque, ou, tu sais, peut-être qu'ils vont me ramasser ma maison, ou ils vont me ramasser mes biens, ou, tu sais. Mm-hmm. Non, mais c'est inquiétant.
C'est compliqué à expliquer, mais ben oui. Il y a des dettes qui sont non libérables. L'étiquette, les amendes. L'étiquette de la route, c'est des dettes qui sont non libérables. Après ça, bon.
T'es obligé de les payer?
Ça, t'as pas le choix.
Ah, ouais.
Fait que même si on fait un
plan d'arrangement. Fait que ceux qui rouvrent le coffre à gants, là, puis qui ont 10-12 tickets, ça marche plus, ça.
Non libérable. Les pensions alimentaires impayées, les arrérages de pensions alimentaires, ça aussi, c'est non libérable.
Oh, OK.
Les préétudiants, ça, c'est important. Si ça fait pas 7 ans que les études sont terminées,
c'est vrai.
Oups, ça va pas bien, c'est non libérable.
Ah, oui. Oui. Fait que le jeune, là, qui sort de l'école, qui a déjà une dette universitaire.
Ouais, mais la plupart du temps, le ministère de l'Éducation va quand même être assez souple. Conciliant, très souple là, pour les ententes. Sauf qu'à un moment donné, quand ça fait 10-12 ans que tu as fini l'école et que tu n'as pas remboursé encore ton prêt étudiant, ça démontre un problème. Tu n'as probablement pas réussi à te placer dans ton domaine, puis tu sautes d'un emploi à l'autre.
Là, donc, tu prends tes payes dans les bars pour prendre un verre parce que là, toi, tu passes à des raps. Eh, Seigneur! Mais nos jeunes, on dirait que de plus en plus, je sais pas si c'est moi qui est trop profane jeune, mais je trouve que les jeunes s'en sortent bien.
Oui.
Je ne sais pas si toi, vous le voyez dans votre clientèle.
C'est pas nécessairement notre grosse clientèle, les jeunes.
Les jeunes, On dirait que, c'est sûr qu'ils sont plus cultivés, nos jeunes, aujourd'hui. Tu sais, ils ont le web.
Il y a la génération qui, c'est complètement autre chose que nous, quand on était jeunes, même parce que...
Ben oui.
Puis même les bars, tu parles des bars, mais les jeunes, ils vont presque plus dans les bars. Non. Tu sais, c'est rendu...
Avec les tolérances zéro d'alcool, là, ça fait en sorte qu'ils perdent moins la tête.
Si je regarde autour de moi, je regarde mes amis, tous les jeunes autour de moi, ils ont eu énormément de support de leurs parents. Donc, ils n'ont pas nécessairement fini qu'un gros prêt étudiant à la sortie de l'école.
Ça change la donne.
Bon, on donne ce qu'on n'a pas eu. On donne à nos enfants ce que nous autres, on a...
On ramasse des riz, justement, pour nos enfants. Pour
Comment ça s'appelle, donc?
Le régime enregistré d'épargne études. C'est ce qu'on n'avait pas dans notre temps.
Puis ça, c'est une autre affaire. Ça, les gens qui ont... des fois, t'entends les questions, je sais pas si je vais faire un règlement, puis j'ai plein de... J'ai beaucoup de dettes, mais en même temps, j'ai des actifs, tu sais, j'ai des REER, j'ai des placements. Qu'est-ce qui arrive, là? Faut que tu fasses un... T'as pas le choix, là. Tu peux pas dire, je garde tout... Non, mais...
T'as fait tes devoirs, Jean.
Non, mais écoute, c'est important. Je veux que nos gens soient...
Tu sais, dans le fond, qu'est-ce qu'on fait, c'est que, s'il y a des actifs qui sont saisissables, on va les chiffrer. Puis on va s'arranger pour faire une proposition au-delà de ça. Je vous donne un exemple. La personne qui a des régimes enregistrés d'épargne études qui sont saisissables, qui en a pour 10 000, ça veut dire que je ne fais pas une proposition à 8 000.
Non.
Donc, ce que je vais faire, on va regarder le budget. Puis si on est capable de faire, je prends mon exemple de tantôt encore, 300 $ par mois pendant 60 mois, là, d'un côté, j'ai 18 000, puis de l'autre côté, en faillite, j'ai 10 000. Donc, ma recommandation aux créanciers, ça va dire, vous devriez accepter la proposition parce que vous allez en recevoir plus de dividendes.
Puis là, tu disais tantôt qu'est-ce qui est saisissable puis qu'est-ce qui ne l'est pas.
C'est ça. Dans le fond, qu'est-ce qui arrive quand quand on fait une proposition, on va toujours appuyer notre dossier dans un cas de faillite. Fait que dans le fond, on étudie le dossier, on regarde les actifs, on va les chiffrer un à l'autre. Les meubles, c'est le Code civil du Québec prévoit que c'est 7 000 non saisissables. Une maison ou une auto, s'il n'y a pas d'équité sur la voiture, la plupart du temps, les autos sont louées. Il n'y a pas d'équité là-dessus. Dans le fond, on ne sera pas capable, le syndic n'est pas capable de vendre le véhicule, mettons, en faillite, puis tirer un profit de ça. Donc, dans ce cas-là, la personne, peu importe qu'elle fasse une faillite ou une proposition, elle continue à faire ses paiements, puis c'est bye-bye, ça finit là, elle conserve sa voiture. Au niveau des immeubles, là, il y a une petite dynamique, c'est que on regarde un peu la valeur liquidative de l'immeuble, d'une résidence. En faillite, encore une fois, qu'est-ce qui arrive? C'est que le syndic, quand il vend un immeuble en faillite, c'est qu'il ne donne pas de garantie légale sur l'immeuble. La plupart du temps, les gens qui nous achètent des actifs, ils vont payer ça beaucoup moins cher que la valeur au marché, justement du fait que le syndic ne donne pas de garantie sur le bien. Donc, en faisant... L'équation de la valeur du bien moins les dettes dessus, mais souvent, il n'y a pas d'équité ou une petite équité. Donc, c'est le même principe que tantôt j'expliquais. C'est que là, on va faire une proposition qui va être favorable pour laquelle les créanciers vont recevoir plus de montants. plus de dividendes.
Mais une personne qui vraiment là, se retrouve à se faire enlever beaucoup de biens matériels, c'est jusqu'à sa maison, c'est qu'elle est rendue où, cette personne-là, dans le fond?
Honnêtement, c'est assez rare que la personne va choisir de faire une faillite puis laisser tout aller. Ça peut arriver, là. Mais à ce moment-là, bon, elle va se relocaliser dans les semaines qui suivent le dépôt de la faillite,
okay.
Tout simplement parce que la banque, elle, va continuer son processus pour reprendre l'affaire, vendre la maison. Donc, c'est pas du jour au lendemain où est-ce qu'il faut qu'elle se trouve un logement là, pour s'en aller de sa maison.
Puis de ce qu'on comprend, c'est une minorité aussi.
Absolument. Puis de toute façon, la plupart du temps, c'est qu'on trouve une autre solution. Si on voit qu'il y a un problème, qu'il va y avoir une équité pour les créanciers dans un contexte de faillite, bien, à ce moment-là, on va diriger la personne vers une proposition de consommateur. Si tu as les moyens de conserver, d'avoir une maison, c'est que tu as des revenus.
Oui, c'est ça.
On s'entend, tu es capable de faire quelque chose.
Tu as contracté une hypothèque, donc tu as des revenus.
Exactement.
C'est ça,
oui. C'est énormément... Ça n'arrive pas, là. On trouve toujours une solution pour la diriger vers la proposition puis de dégager un surplus pour essayer de bâtir quelque chose qui serait acceptable.
C'est beau d'entendre ça parce qu'on s'imagine vraiment, là, tu sais, comme même moi, je pense j'avais cette vision-là de gens trop endettés qui se font tout enlever, comme s'ils allaient tout se faire enlever, tu sais. C'est une image préconçue, là.
En fait, c'est au niveau commercial, c'est que quand la compagnie fait une faillite, effectivement, là, il y a la clé d'emporte puis c'est la liquidation automatique.
Okay.
Mais c'est pas la même chose au niveau des particuliers, là.
Oui, tu parlais tantôt de la règle de l'auto, la règle des meubles. En commercial, ça doit être un petit peu plus rigide, hein, un peu plus sévère.
Oui, effectivement. Dans le fond, c'est vraiment la faillite entraîne la liquidation de tous les actifs.
Puis s'il y a des cautions personnelles, quand on va dire... Souvent, les entrepreneurs, ils ont au début, quand ils ont commencé, du moins dans leur entreprise, des fois, il faut qu'ils cautionnent leur crédit, leur marge. À ce moment-là, qu'est-ce qui arrive? C'est que tôt ou tard, l'individu... Il est écorché par le système.
Oui, c'est ça. C'est qu'est-ce qui va arriver, c'est que les cautions vont être réclamées là, par les institutions financières à la personne.
Il va être obligé de faire aussi une faillite personnelle.
Soit faire une faillite personnelle ou une proposition de consommateur.
Oui, c'est ça.
Effectivement. Fait qu'ils se font tout prendre, finalement. Là,
ben, au niveau commercial, on fait table rase, on va dire comme ça. Puis après ça, on regarde voir si on sait. On a déjà fait l'examen de voir c'est quoi les retombées de la faillite qui va retomber au niveau du particulier. Donc, on regarde pour une solution de qu'est-ce qui est préférable là, par rapport à si on voit qu'il va encore une fois perdre des actifs, qui tient vraiment, qui veut conserver.
Ouais.
On va diriger soit vers une proposition. Puis comme je vous ai dit tantôt, s'il y a juste deux autos, une auto, l'auto de la conjointe qui est à son nom, il y a des choses qui parlent d'elles-mêmes. On peut tout simplement déposer une faillite pour faire en sorte de faire le ménage de tous ces cautions-là puis de repartir à zéro, là.
Puis au niveau des entreprises, comme en 2023 qu'on est là, est-ce que c'est plus difficile, vous diriez, qu'il y a 10 ans ou comme comparatif?
Écoutez, c'est sûr que la donne de la pandémie a changé beaucoup de choses.
La COVID.
Je dirais que pendant les deux dernières années, les institutions financières, même le gouvernement fédéral, provincial, ont été en arrêt de procédure. Donc, de toute façon, toutes les procédures ont été mises sur pause. Là, la machine redémarre tranquillement. Mais je ne sais pas encore, honnêtement, là, les banques, je pense qu'ils ont appris beaucoup là, des deux dernières années. Là, puis le bouton, je pense qu'ils sont plus à l'écoute maintenant, sans nécessairement peser sur le piton. Avant ça, c'était des procédures là, qui étaient automatiques.
C'est suite. Okay. Sorte un paiement ou deux, bing, bang.
C'est ça.
Dis-moi donc, Yves, avec le support du gouvernement, parce qu'il y a eu des gros montants d'argent qui ont été... prêté, entre guillemets, par le gouvernement à nos entrepreneurs.
Les prêts d'urgence.
Oui, les prêts d'urgence, 20 000 ou 40 000, je ne sais pas trop.
40 et 60, ça peut aller jusqu'à 60 000.
Bon.
Ouais.
Ces prêts-là, est-ce que... je te vois la face, là. ça va passer dans le tordeur aussi, je présume?
J'essaie de ne pas rire.
Oui, non, mais c'est une vraie farce, ça.
C'est ça. Effectivement, c'est que, dans le fond, les prêts garantis par le gouvernement, il n'y a pas de caution, il n'y a pas de garantie.
Ben non.
C'est le gouvernement qui garantit les montants. Des compagnies qui avaient des présentes ne sont pas exigibles encore, mais bon, on a déjà commencé à en mettre en faillite, des compagnies, là. Puis bon, écoute, 60 000, c'est bye-bye. Là. Il n'y a pas personne qui est inquiété là-dessus. Puis pour le moment, là, il n'y a pas de...
Le gouvernement sera pas le plus pauvre.
Oui, c'est ça. Il n'y a pas de compte à rendre, puis il n'y a pas personne qui est imputable. Puis c'est bonsoir la visite.
Okay. C'est de valeur parce que c'est un beau geste. Tu sais, à la base, tu regardes ça, tu te dis, bien, si ça avait été, mettons, on va dire, l'élément qui va sauver certaines entreprises, du moins pourcentage, c'est pas le cas.
Bien,
c'est pas le cas.
Ben, c'est pas, moi, dans mes dossiers, c'est 100%.
Bien, c'est ça, là.
Mais ceux qui sont passés à travers, qui s'en sont sortis, je ne les vois pas chez nous.
Non, là, c'est ça.
C'est dur pour moi de juger, bon, c'est-tu 20%, c'est-tu 80%?
Non, mais tu as plus de clients que l'année passée, ou là, 2 ans.
Oui, mais là, ça redécolle, je veux dire, c'est parce que, bon, là, mais c'est pas ça qui fait présentement, qui fait tomber, parce que les prêts ne sont pas encore exigibles. Là. Techniquement, ça à partir du 31 décembre cette année. Là.
Mais tu sais, si quelqu'un s'en va chez toi,
ben,
qui a eu ces prêts-là...
Cette dette-là fait partie des autres dettes. Là,
mais c'était supposé de l'aider, cette dette-là.
Ben, c'est parce que si tu le remettais, il te donne comme, mettons, sur 40 000, ben, il te laisse 10 000.
Oui, c'est ça. Mais ça reste que si tu reçois cet argent-là du gouvernement puis que tu te ramasses quand même chez Roy Métivier-Roberge, c'est ça que je trouve triste.
Ouais.
T'sais, c'était supposé être un montant
La dette, elle a été déplacée, tout simplement. Ce qui arrive, c'est que la personne, elle a remboursé d'autres dettes.
Ben oui.
Les 60 000, il est encore c'est pas les profits que ça a aidé à générer. Là. C'est juste un déplacement des pions sur l'échiquier. Là.
C'est tout simplement. C'est ça. Puis c'est la banque, mettons, ou le créancier X, que lui, ben il est chanceux, il a récupéré, mais le gouvernement, lui, ben il perd son.
Puis nous, des fois, ça nous paraît des grosses sommes, mais tu sais, il y en a qui ont des édifices, des locales à payer qui coûtent extrêmement cher. Là, fait que c'est pas long que ça passe, un petit 40-60 000. Là,
Des fois, c'est un mois de loyer.
C'est
hein?
ça.
Oui,
t'as des entreprises. Parce qu'au départ, on pensait pas que ça allait durer 3 ans, là, tu sais, ou 2 ans et quelques. Qu'est-ce qui se passe bientôt? Là, y a-tu encore de l'expansion dans l'air? Comment ça marche? Parce que là, vous êtes constamment en demande. Vous êtes rendu quasiment des stars. C'est plate, là, mais je suis content pour vous autres.
Ah non, t'sais. Mais nous, on fait notre petit chemin, on fait ce qu'on a à faire. Puis
Y a-tu de l'expansion qui s'en vient?
Bon, on a un bureau qui s'en vient à l'extérieur, dans le coin de Gatineau. Au niveau des employés, bon, on a toujours les yeux ouverts. Là.
Oui.
Oui.
Mais... Avec les gens qui nous écoutent, des fois, qui ont une base en comptabilité?
Écoutez, c'est assez difficile à expliquer un peu qu'est-ce qu'on a besoin.
Il peut s'en aller en...
Normalement, là, un syndic, c'était quelqu'un qui a un titre de comptable.
OK. En partant.
Ou qui a une base en finance, en administration. Puis
il a déjà fait faillite, il est-tu correct?
Oui, c'est ça.
Il a appris de ça.
Non, mais il a appris, il est bon.
Les syndics en faillite, j'en connais pas tant.
Non, mais je veux dire.
Il y a plusieurs, pas nécessairement syndics. On a besoin de beaucoup de personnel.
Oui.
Des adjointes, on a des administrateurs.
Oui.
Il y a des gens, ils ont toutes leurs.
Votre animateur de podcast.
Leur expérience de travail. Donc,
ben oui, je comprends. Non, c'est ça. Mm-hmm. Et puis, si vous voulez, Gatineau, ça, c'est le 15e?
16e.
Wow, quand même. Hein? Mm-hmm.
Donc, c'est ça. Là, on a des bureaux principaux, on a des bureaux secondaires, des bureaux principaux.
Iberville,
c'est ça fait longtemps qu'il est ici là. À Sainte-Foy.
Oui.
Donc, nous, on a notre siège social est ici à Québec.
À Québec.
On a des bureaux secondaires. Ah ben en fait, on a des bureaux, on a 3 bureaux où est-ce qu'on a du personnel. Les autres, c'est des bureaux qu'on va sur rendez-vous.
OK.
Par contre, depuis l'avènement de la pandémie, le bureau du surintendant des faillites nous permet maintenant de faire des entrevues par le biais de vidéoconférence, Teams,
Oui.
Donc, ça honnêtement, ça facilite notre travail vraiment, énormément.
Vraiment.
Beaucoup moins de déplacements, mais quand même, nos bureaux sont toujours importants de conserver en région. Parce que, bon, les gens, souvent, ils vont regarder, bon, je suis dans la Beauce, là, tu as un bureau de syndic ici, les autres RMR sont à Saint-Georges, c'est beau, on va les appeler. Fait que, ben là, demain, j'ai un rendez-vous où est-ce que la personne voulait absolument me rencontrer, fait que je vais me déplacer. Je vous dirais, 80% de mes déplacements, ça a diminué, ça facilite énormément.
Oui, la Zoom, c'est bien ça. Limoilou aussi, je pense. Hein,
Limoilou, même ici à Québec, on est Charlebourg, Limoilou, Val-Bélair, Lévis, en région, c'est ça.
Bon, bien, écoute, c'est le fun d'avoir un entrepreneur qui participe, justement, puis qui au niveau de l'économie, puis que ça va bien. C'est, oui. C'est ça l'objectif dans la jungle des affaires. C'est pas juste de recevoir des gens. C'est le fun d'avoir des entrepreneurs qui prospèrent. Mais dans votre domaine, ben, mm-hmm. c'est toujours triste d'un autre côté, parce que tu dis, ça veut dire qu'il y a des gens en problème, tabarouette. L'économie est bizarre. Présentement, là, c'est...
Comme je vous dis, il y a toujours des gens qui vont avoir des problèmes, mais il y a des solutions. Mm-hmm. Fait que ouais. C'est d'en parler.
Moi, c'est ça que j'aime. C'est votre côté. Je pense qu'aujourd'hui, avec l'entrevue qu'on va avoir faite, c'est sûr que les gens qui écoutent, ils vont comprendre que c'est pas vrai que syndic égale automatique faillite. T'sais.
Absolument pas.
D'ailleurs, vous le dites de moins en moins, syndic de faillite.
C'est vrai.
C'est-tu vrai?
Oui, absolument.
Mon oreille marketing m'a dit mon
vieux bac. C'était peut-être trop dans le langage courant, justement.
Ben, c'est parce que là, tu disais, moi, je suis syndic de faillite. Ah, OK. Tu fais quoi dans la vie? Ah, je suis syndic de faillite. Ah, OK, faillite. Ben, tu viens de me le dire, là.
Finalement, la nouvelle dénomination, c'est syndic autorisé en insolvabilité.
Bon. C'est mieux. Dans la jungle de l'insolvabilité, on l'a trouvé, non? Non, mais il y a tellement d'apprentissage, il y a tellement d'éducation à faire. Puis même... C'est plate à dire, mais il y a de la prévention, pareil, qui peut se faire. T'sais, c'est sûr que plus il va y avoir de la prévention, moins c'est bon pour vous autres. Je comprends ça. Mm-hmm. Je suis pas con à temps plein. Mais ça reste que pour le commun des mortels, c'est important d'avoir des amis, peut-être, qui peuvent
aussi
vous conseiller.
T'sais, dans la compétition que vous vivez actuellement, comment vous êtes concurrentiel? Mm. Qu'est-ce qui vous démarque? Quelqu'un qui nous entend, même qui veut travailler chez vous, t'sais, comment vous pouvez être concurrentiel aux autres compétiteurs, dans le fond?
En fait, nous autres, c'est notre service personnalisé, je vous dirais. On est, tu sais, dans le fond, quand les gens appellent pour parler à un conseiller, il va parler à un conseiller. Il ne sera pas rappelé dans 10 minutes, dans une heure, dans 4 heures.
C'est... Faites le 1, faites le 2, faites le 4, mais en attente.
C'est là, souvent quand tu es en petite détresse, mais tu veux que ça soit là aussi. Ouais. Tu es prêt, tu as eu le guts d'appeler.
Exactement, c'est très important. Puis nous, on le connaît, ça, on le sait, on l'a appris en jasant avec notre monde, en jasant avec nos clients. C'est là que ça se passe. Ouais. C'est pas. Tu sais, ça me fait rire un peu parce que j'ai quelqu'un de mon bureau qui est très sur les réseaux sociaux, puis lui, il reçoit des demandes, des courriels sur notre site Internet le soir à 10h, 11h, 2h du matin.
Quand même.
Puis lui, il a de la misère à dormir, donc il répond du tac au tac à ces gens-là. C'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde. Là.
Non, c'est ça.
À ne pas faire. Ben, en tout cas.
Ben, pour sa vie, à lui. Non,
c'est
personnel.
Ça. Ses clients sont contents. Ouais. En tout cas, du moins, ses futurs clients. Y a-t-il une relation qui s'installe après? Parce que, tu sais, veut pas vous passer un bout de. C'est un bout de tough pour un humain là, de passer ce processus-là.
Oui,
mais... On dit qu'après, il est comme barré au crédit dans le jargon. Oui,
ça
là.
Prend un certain temps, hein, je pense,
c'est
avant
ça,
de se reconstruire.
Ça laisse des traces, effectivement, au dossier de crédit pendant un certain temps. La faillite, c'est 6 ans après
Est-ce
la libération.
Est-ce qu'il peut t'appeler pareil pour dire, je sais pas, moi, j'aurais tel projet d'affaires? Est-ce que vous demeurez quand même... Même si le processus est terminé, là, c'est...
Je vous dirais, là, c'est assez rare que les clients vont nous appeler une fois que c'est réglé. Ils sont assez contents d'avoir ça derrière eux, qu'ils vont tout simplement passer à autre chose. Ouais. Puis on en a des clients qui nous rappellent plusieurs années après, mais c'est assez rare pour dire, hey, moi, mes affaires vont super bien, je suis rendu dans tel domaine, puis merci beaucoup. Ça arrive, mais c'est très rare.
Okay. Puis j'imagine, ça vous est-tu arrivé d'avoir deux fois le même client? C'est qui n'a pas appris de ses erreurs, dans le fond.
Ça arrive. Mais je veux dire, la vie va faire en sorte souvent que, on va te placer des embûches sur ta route, mais tu peux pas le savoir. Je veux dire. Mm-hmm. Tu penses que c'est redécollé, puis à un moment donné, il arrive d'autres choses.
Mais surtout les entrepreneurs. Hein? Ouais. C'est plate, là, mais
même les particuliers. Ouais. Une séparation conjugale, penses que tout est reparti.
C'est vrai, ça.
Bon,
les coûts changent aussi quand tu payes tout seul versus à deux, que tu plaides tout à deux.
Effectivement, mais encore là, ça va être...
COVID, ça, il y a eu beaucoup de séparations, en fait. Fait que ça a dû avoir un impact chez vous aussi.
Pas au niveau du volume.
Non?
Absolument pas. Okay. Pas pour l'instant, comme je vous ai dit. Pendant la COVID, ça a baissé au niveau du nombre de faillites déposées. C'est des statistiques au niveau pan-canadien, là, ça a baissé partout.
Ah, quand même. Ouais.
Fait que là, présentement, on rattrape là, ce qu'on a vécu avant. On revient au même niveau qu'on était. j'ai l'impression que ça va augmenter encore de plus, un peu plus que ce qu'on avait avant de déposer. En fait, parce que là, les gens qui ont eu des difficultés, oui, il y a de l'argent qui est rentré par le gouvernement, par différents paliers, là. Mais à un moment donné,
ça s'essouffle quand même.
Effectivement.
Ouais.
Puis là, ben, ce qui arrive présentement avec les taux d'intérêt, ça n'a pas de bon sens.
Les taux d'intérêt, honnêtement, c'est plus le coût de la vie pour la majorité
ben,
du monde.
Tout,
là.
Ben oui, les camions qui font la livraison là, sont au diesel pour la plupart. Puis c'est drôle que le prix à la pompe de diesel augmente. Fait que là, moi là, j'ai 56 ans, là, puis je comprends rien, là.
Non, mais il n'y a rien à comprendre aussi.
Puis là, après ça, il dit, OK, c'est la Banque centrale du Canada. Je ne veux pas tomber dans les détails, mais qu'on augmente le taux d'intérêt parce que ça va remousser un peu l'économie, parce qu'on va être sur nos gardes, on va arrêter d'acheter. Hey, moi, je ne comprends plus rien. Là.
Moi non plus.
Puis je ne suis pas con, là. Je veux dire,
ça va faire baisser la demande de biens, donc ça va...
On va moins acheter, tu penses?
Exactement,
Ça marche, ça, c'est vrai?
Ben, oui, ça fonctionne.
Parce que toi, ça a un impact direct.
À un certain point, bon, vous voyez, là, la Banque du Canada a augmenté les taux. Bon, ils ne sont pas passés de 1 % à 7 % d'une claque. Là. Donc, ils essaient toujours d'augmenter un petit peu pour voir un peu, bon, à un moment donné, on va plafonner. L'offre et la demande, là, ça va avoir un impact. Ça va faire on va atteindre un niveau où, est-ce qu'à un moment donné, l'inflation va diminuer. Puis c'est à ce moment-là que les taux vont cesser. Là.
Ils vont-tu rebaisser, d'après toi? On ne le sait pas personne. Là. Je comprends qu'on n'a pas de lampe à la peine, là, mais...
Probablement que si je le savais...
Ça se peut-tu que ça revienne à 2 % ça?
Je ne peux pas vous dire.
Ouais.
On ne sait pas.
On se croise les doigts. Mais
on espère fort.
On regarde nos hypothèques, on dit, mon Dieu, Seigneur, ça n'a pas de bon sens. Même l'épicerie, je parlais avec ma conjointe dernièrement, on disait, mon Dieu, Seigneur, imagine C'est rendu fou, là.
Bien, ça a doublé. C'est de trouver des systèmes. Tantôt, on parlait de solutions dans le crédit, mais dans l'épicerie, il y a des solutions. Tu sais, même moi, j'en ai chez nous, là. C'est de faire mes menus sur 2 semaines parce qu'on est 4. J'ai 2 petits gars.
Je comprends super bien. Puis même, je comprends pas. Ils disent que l'inflation est rendue à 5,8, à 6 %. Puis je regarde le prix du fromage, là, c'est épouvantable.
Ça a doublé.
Ben oui. Et c'est pas juste ça. Il y a la viande.
C'est plus du 5 %.
C'est ça. Je ne sais pas leur 5 % où est-ce qu'ils prennent.
Oui. C'est vrai.
Non, mais il y a quelqu'un qui compte plus vite que nous autres. À quelque part. J'ai pas de bon sens. Hey, Yves Turcotte, merci beaucoup.
Oui.
Belle entrevue. Je te laisserai quasiment le mot de la fin.
Écoutez, merci infiniment de m'avoir reçu aujourd'hui. Ça a été vraiment... Ça a passé très vite, là. C'est comme...
Ça va vite. Une heure, là, on n'a pas... Tu peux revenir, hein, si tu veux.
Merci de l'opportunité. Oui, ça serait bien.
À l'automne. Ouais. Non, mais il y a beaucoup d'éducation à faire. Ouais. Puis je sais que tu as trop une grosse équipe pour toutes les saluer, mais on les remercie pareil. Tu sais, c'est le fun de sentir que tu fais partie d'une belle équipe. Merci beaucoup, Marie-Pierre.
Ça fait plaisir, encore une fois.
Fred Dugnon.
Oui.
Quelle belle cause.
Il y a l'accroche-cœur le 7 mai prochain, je le plug.
Oui, bien, j'espère.
C'est à l'Albert Rousseau. En fait...
Les gens qui veulent des billets font quoi?
Oui, ils peuvent aller directement là, sur la billetterie, sur le site de la salle Albert Rousseau. Tapez Gala Accroche-cœur 2023. Vous allez voir, on a une belle brochette d'humoristes, d'autres qui restent à annoncer. Je ne veux pas dévoiler de punch maintenant. Allez voir, les billets partent rapidement. J'en suis déjà rendue à la rangée haut, côté parterre, Corbeil, Balcon, il en reste des beaux billets actuellement. Fait que je vous invite là, à aller visiter le site National Albert Rousseau.
Puis tu sais, les entrepreneurs qui nous écoutaient, ça se donne bien en cadeau, ça, de beaux billets pour la soirée Gala Croche-Cœur.
Et si un dimanche, vous êtes fatigué, vous pouvez toujours faire un don aussi. Ça, c'est le bienvenu.
Tu fais encore mieux, tu achètes 2 billets. Tu les donnes parce que t'es trop fatigué, puis tu fais un don.
En plus, www.autredunion.org. Et voilà.
Yes, merci beaucoup. Merci Yves. Tu salueras mon ami Joe, puis Roxane, puis toute la gang.
Oui, je vais faire un message.
Je sais que vous avez une belle équipe, puis c'est le fun de vous voir aller. C'est en pleine expansion. Roi Métivier Roberge, un peu partout au Québec. On l'a dit tantôt que ce qui se démarque de cette équipe-là, c'est le côté humain. Alors, la vie à tous. Dans la jungle des affaires, on ne sait pas quand est-ce qu'on va revenir, mais une chose est sûre, on a du plaisir.
Merci d'avoir écouté La jungle des affaires. Pour participer à l'émission, rendez-vous sur notre site web dans la jungle des affaires.ca. À très bientôt pour une prochaine entrevue.